Merci de nous rejoindre sur Inter. Il est 8h. Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le tourisme aux abois, 7 mois à compter les pertes, elles sont abyssales à Versailles. On va le voir avec un trou dans les finances de la ville. Les ministres au chevet du secteur ce matin. Eux aussi voudraient bien qu'on se penche sur leur malheur. Les forains manifestent dans les grandes villes de France au volant de leurs camions ce lundi. L'économie au temps du Covid, on dresse le constat et on tente de tracer des perspectives avec l'invité du grand entretien.
Il s'agit de l'économie. Philippe Aguillon, il est professeur au Collège de France. Il co-signe Le pouvoir de la destruction créatrice, c'est chez Odile Jacob. Le standard vous attend, 01 45 24 7000.
La cote d'alerte dépassée à Toulouse et Montpellier, deux nouvelles villes en alerte maximale, alors que la fermeture des bars est prolongée de 15 jours à Aix et Marseille. Et puis dans ce journal, l'interdiction des mortiers d'artifice aux particuliers, l'interdiction de leur vente prônée par le ministre de l'Intérieur. Après l'attaque du commissariat de Champigny, un nouveau procès tapis en appel, c'est toujours l'affaire Crédit Lyonnais Adidas, tapis malade mais combatif. La pêche à la coquille Saint-Jacques, miraculeuse cette année. Et Philippe Cobert qui joue Alphonse Daudet à la Comédie Odéon de Lyon, programmation soignée pour faire revenir le public.
France Inter.
Comptez les perches à selfie devant la Tour Eiffel, les langues du monde entier dans les châteaux de la Loire ou les guides touristiques entre les mains des visiteurs du Mont-Saint-Michel, il n'y en a quasiment plus. Le tourisme frappé dans la durée par cette pandémie qui empêche les gens de voyager. Un comité interministériel se tiendra aujourd'hui à Matignon pour faire le point sur les mesures de soutien au secteur. 6 milliards d'euros déjà engagés, mais les hauts lieux du tourisme en France restent plombés et tout leur écosystème avec eux. Le château de Versailles, par exemple, a perdu 80% de ses visiteurs ces 7 derniers mois, Rémi Brancato.
Depuis mars, les recettes ont chuté de 50 millions d'euros à la billetterie du château de Versailles. Les rares visiteurs venus cet été s'y sont sentis bien seuls.
Ils étaient ravis. Ils étaient ravis parce qu'il n'y avait pas grand monde. C'était une quasi-visite privée, mais du point de vue économique, ça reste une catastrophe pour nous.
Guylain de Richecourt dirige France Tourisme qui organise habituellement des sorties à la journée en car à Versailles.
On est totalement à l'arrêt depuis le 1er septembre. Ce qui nous ennuie le plus dans tout ça, c'est qu'on ne sait absolument pas quand ça va redémarrer. Ça peut être au printemps prochain ou beaucoup plus tard.
Car des milliers d'emplois indirects dépendent du château qui dépend, lui, des visiteurs étrangers à 80%. Résultat, les finances de la ville de Versailles souffrent aussi. Le maire, François de Mézières, récolte par exemple les recettes du grand parking devant l'entrée.
C'est des recettes importantes, de l'ordre de 3 millions d'euros par an. C'est les seules recettes que la ville tire directement du château de Versailles. Et donc, celles-ci sont littéralement effondrées. C'est des pertes dans notre budget.
Alors l'État va consacrer 87 millions d'euros de son plan de relance au château, pas de quoi combler les pertes de la ville.
Là, pour le coup, aujourd'hui, nous n'avons pas eu d'aide de la part de l'État.
Avec l'arrêt du tourisme notamment, la ville de Versailles chiffre à 8 millions d'euros ses pertes depuis le début de la crise.
Voilà, 87 millions d'euros pour le château, voilà ce qui est prévu dans le plan de relance ces deux prochaines années. Eux aussi dépendent du tourisme, les autocaristes et les VTC qui manifesteront au volant ce matin aux abords de Paris pour réclamer des aides supplémentaires, comme les forains privés de fêtes, pas de foire du trône, pas de fête des loges, pas de vogue des marrons à Lyon. Les forains appellent à l'aide. Ils organisent ce matin des opérations escargots à Lille, Bordeaux, Marseille ou Paris, ou un cortège quittera bientôt le cours de Vincennes pour le péage de Saint-Arnoult en Yvelines. Ils s'estiment pénalisés, les forains, par rapport au reste des commerces. Karl Chenavier représente la profession dans la région Rhône-Alpes.
Pourquoi les commerces sédentaires auraient-ils le droit de reprendre leurs activités? Et nous, parce que nous sommes itinérants, parce que nous sommes forains, je ne comprends absolument pas l'acharnement qu'il y a sur ces fêtes foraines à vouloir systématiquement les arrêter. Et ce n'est pas équitable. La vogue pourrait se tenir avec des conditions sanitaires qui soient respectées, avec les mêmes protocoles qu'il y a dans le reste de la France. Les restaurateurs en ont, les centres commerciaux en ont. Tout arrive à être contrôlé puisque nous avons des masques, nous avons du gel hydroalcoolique à disposition de quasiment partout, nous respectons les distanciations. Sur les fêtes foraines, c'est possible aussi. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est que tout est bien fait et nous ne pouvons toujours pas travailler. Mais nous aimerions avoir au moins des aides qui payent nos charges et qui nous laissent vivre. Personnellement, j'ai peur mon matériel ne vaille plus rien, que toute cette génération, toute cette vie parte en fumée. Ouais. J'ai peur de ne plus être forain aujourd'hui.
Voilà, Karl Chenavier qui représente les forains de la région Rhône-Alpes avec Lauriane Delanoë. Les forains seront reçus à la mi-journée au ministère de l'économie. Au chapitre sanitaire, de nouvelles villes passant en alerte maximale, Toulouse et Montpellier où les contaminations et les hospitalisations sont trop nombreuses. Les bars fermeront donc là-bas aussi pendant 2 semaines à partir de demain. Et si le maire LR de Toulouse n'en voit pas l'intérêt et parle d'une économie brimée, le maire socialiste de Montpellier ne voit pas matière à polémique. Michael Delafosse ne jouera pas le jeu de la contestation.
Ce que nous vivons en ce moment est un des épisodes les plus inédits et les plus singuliers depuis la Deuxième Guerre mondiale. 2 mois de confinement, des personnels hospitaliers très mobilisés mais épuisés depuis de longs mois. C'est difficile. On ne sait pas de quoi demain va être fait. La perspective possible d'un confinement, ce que nous devons à tout prix éviter. Donc le temps, il n'est pas aux polémiques. Le temps, il est à la responsabilité. Ayons un peu de hauteur, ayons un peu de retenue. On ne peut pas avoir applaudi les soignants pendant 2 mois et aujourd'hui les laisser en situation d'épreuve parce que nous n'aurions pas une attitude digne et responsable.
Michael Delafosse, maire de Montpellier, joint par Laurence Perron à Aix-et-Marseille. La fermeture des bars est prolongée de 2 semaines par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, on l'a appris ce matin. Emmanuel Macron est-il qu'à contact? Question ce matin alors qu'il a rencontré jeudi le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch, testé positif en rentrant samedi à Tahiti. En Europe, nos voisins durcissent leurs mesures anti-Covid. L'Italie, épargnée jusque-là par la deuxième vague, prévoit de nouvelles restrictions parce que les contaminations y sont en forte augmentation. En Allemagne, les habitants des zones rouges ne pourront plus prendre de chambre d'hôtel dans leur propre pays sans présenter un test négatif. Et puis en Chine, 6 cas positifs et c'est toute une ville qui est testée, la ville de Tsingtao sur la côte Est, qui inquiète les autorités, Dominique André, parce que ces personnes ne viennent pas de l'étranger. Ces cas sont des cas locaux.
La plupart des nouveaux cas locaux de Covid-19, une infirmière et un chauffeur de taxi, entre autres, ont un lien avec l'hôpital des maladies pulmonaires de Tsingtao. C'est un hôpital où sont soignés habituellement des patients atteints de Covid-19 en provenance de l'étranger. Mais la source précise de l'infection n'est pas encore connue. La capitale de la bière chinoise, Tsingtao, connue dans le monde entier, est aussi une station balnéaire courue en Chine. 143 000 personnes ont déjà été dépistées pour tenter de trouver les cas contacts. Une campagne massive de dépistage est lancé. D'ici 5 jours, les 9 millions d'habitants seront testés, annonce la ville. Les autorités chinoises sont sous la pression des cas importés et d'une résurgence de la maladie dans les provinces, alors que l'épidémie est endiguée dans le pays depuis plusieurs mois grâce à des mesures extrêmement strictes. Pékin, Dominique André, France Inter.
Des navires turcs en Méditerranée orientale, Ankara relance son programme de recherche dans une zone potentiellement riche en gaz dans les eaux territoriales grecques. Les précédents en août et en septembre avaient créé de vives tension entre les deux pays qui s'étaient mis d'accord la semaine dernière pour commencer à discuter.
Il est 8h08, Florence, c'est à la fois spectaculaire et extrêmement dangereux.
Et c'est bien le but recherché par ceux qui utilisent des mortiers de feux d'artifice pour s'en prendre à la police, entre autres. Ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche au commissariat de Champigny-sur-Marne, où s'est rendu hier soir Gérald Darmanin pour dénoncer ceux qui veulent casser du flic et légiférer sur ces nouvelles munitions à portée de clic sur Internet.
Et je suis venu vous dire ce soir, je suis venu dire à tous ceux qui essayent de tester la République qu'ils ne gagneront pas. Je souhaite que dans la prochain texte de loi qui arrive à l'Assemblée nationale le 19 novembre, la proposition de loi de M. Fauvergue et Mme Thuriot, nous puissions définir comme une arme à destination ces feux d'artifice, ces mortiers qui attaquent et dont l'objet du commissariat, par exemple, de Champigny a été par 2 fois d'être attaqué par ces armes. Elles peuvent tuer. Et il faut aujourd'hui que nous arrêtions cette vente sur Internet, cette vente qui n'est pas destinée à des professionnels et que nous la pénalisions.
Le ministre de l'Intérieur au micro d'Alice Cachaner, il recevra les syndicats de policiers demain. Emmanuel Macron le fera jeudi après s'être exprimé mercredi soir à la télévision sur l'état du pays. Il lutte pour sa vie et se relance dans l'arène judiciaire. Bernard Tapie devant la cour d'appel de Paris pour l'affaire de l'arbitrage contre le Crédit Lyonnais. En 2008, un tribunal arbitral lui avait octroyé 403 millions d'euros en réparation de son préjudice dans la revente d'Adidas. Cet arbitre arbitrage a été définitivement annulé par la justice civile et Bernard Tapie condamné à rembourser. Mais au pénal, c'est d'honneur qu'il s'agit. L'an dernier, en première instance, Tapie a été relaxé. Pas d'escroquerie ni de détournement de fonds reconnu par la justice. Alors pour ce nouveau procès, Corinne Audouin, Tapie espère de nouveau être blanchi.
À 77 ans, Bernard Tapie souffre de deux cancers pour lesquels il suit un traitement expérimental en Belgique. Pas question pour autant de ne pas assister à son procès. L'envie de s'expliquer, c'est sans doute ce qui le tient en vie, confie son avocat Hervé Temim. Lors de sa dernière apparition publique, il y a un mois, à un concours d'éloquence du barreau de Paris, Bernard Tapie a expliqué, d'une voix abîmée par les traitements, comment il luttait contre la maladie.
C'est l'énergie qui donne la puissance à votre système immunitaire. Et comment on trouve l'énergie? En bougeant, en se remuant. Et si vous êtes au lit, du matin au soir, en vous disant « je ne peux pas me lever », vous êtes mort.
12 ans après l'arbitrage qui lui avait notamment accordé 45 millions d'euros de préjudice moral, Bernard Tapie tentera de convaincre la cour d'appel qu'il n'y a pas eu d'escroquerie. L'enjeu n'est pas de garder l'argent de l'arbitrage, celui-ci a été définitivement annulé en 2015. Et depuis, Bernard Tapie bataille devant les tribunaux de commerce. Il n'a toujours pas commencé à rembourser l'État. Le 30 avril dernier, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation totale de ses sociétés. Un jugement dont il a évidemment fait appel.
Et Bernard Tapie encourt une peine de 7 ans de prison. C'est l'or de la baie de Seine et de la baie de Saint-Brieuc, la coquille Saint-Jacques, que l'on commence à pêcher. C'est la saison depuis début octobre. Et c'est une pêche miraculeuse qui s'annonce puisqu'il n'y a jamais eu autant de coquilles depuis 30 ans, selon l'Ifremer. Mathilde Dehimi, les pêcheurs y voient la récompense de leurs efforts.
Depuis 30 ans, l'Ifremer évalue le nombre de coquilles dans les deux gisements français avant le début de la saison. Et jamais l'Institut n'avait obtenu de tels résultats, notamment en baie de Saint-Brieuc. Éric Fouché, chercheur en halieutique à l'Ifremer.
Cette année, le record historique de quantité de coquilles disponibles a été battu. Mais quand je dis battu, c'est largement battu, puisqu'il y a 50% de plus que le précédent record. C'est vraiment gigantesque. On se retrouve avec une biomasse exploitable entre 35 et 40 000 tonnes en baie de Saint-Brieuc. En baie de Seine, on n'est pas au record historique, mais on est très très proche en fait. Et c'est unique en Europe. Nos collègues britanniques, irlandais et autres ont des tendances qui sont radicalement différentes. Hein, donc, parce qu'il n'y a pas du tout de management des pêches là-bas.
Les pêcheurs français gèrent eux-mêmes le prélèvement des ressources avec des horaires, des jachères. Les filets ne prélèvent plus que les grosses coquilles. Des conditions environnementales favorables expliquent aussi ce foisonnement. Dimitri Rogoff préside le comité régional des pêches de Normandie.
On les a sous les pieds et on les pêche quand on veut et de la façon dont on veut. Le souci maintenant, ça va être de les valoriser correctement. Donc, il n'est pas non plus question de la brader. Il faut que les bateaux gagnent leur vie, puissent payer leurs équipages. C'est vrai que là, on est un peu dans l'inconnu avec les problèmes de Covid, les problèmes dans la restauration. C'est pas gagné d'avance, notre affaire.
Les bateaux anglais ne se sont pas encore montrés, car toutes les zones, notamment les plus prometteuses, ne sont pas encore ouvertes à la pêche.
Mathilde Dehimi, comment attirer les spectateurs sans leur servir de coquille Saint-Jacques, bien sûr? Comment les faire revenir au théâtre? C'est la question du moment pour tous les directeurs de salle. À Lyon, Mathilde Imberti, la comédie Odéon a tout misé sur Philippe Cobert et son amour pour Alphonse Daudet.
Philippe Cobert offre les lettres de Montmoulin, la chèvre de Monsieur Seguin, le curé de Cucugnan, la Provence d'Alphonse Daudet qui fait écho à ses propres racines.
J'espère que les gens partagent avec moi ma propre émotion que j'ai à jouer un tel écrivain, voilà, je m'identifie à Alphonse Daudet, j'ai trouvé toutes les correspondances. Et tout ce que je souhaite, c'est que les spectateurs soient comme moi, qui partent dans ce monde.
Philippe Cobert qui joue avec son public, comme toujours, malgré le masque, malgré le contexte anxiogène, le plaisir en est redoublé, selon cette admiratrice lyonnaise.
C'est vraiment formidable, on en oublie même le masque. On est de nouveau au théâtre, vraiment. Donc oui, ça fait du bien.
Retourner au spectacle pour respirer et pour sauver les salles. Julien Poncet dirige la comédie Odéon. Il avait fédéré les théâtres privés de région pendant le confinement et obtenu quelques garanties.
Sans les aides qui nous ont été annoncées, on va tous mettre la clé sous la porte. Pas qu'elle tarde à arriver maintenant, c'est plutôt ça le message. Et aujourd'hui, en fait, l'enjeu pour nous, c'est de faire revenir les gens au théâtre. On essaye de proposer les meilleurs spectacles qui soient, dans lesquels les gens vont pouvoir trouver un moyen d'évasion, parce qu'on ne peut pas vivre qu'entre le boulot et le dodo. Et nous, on est la case intermédiaire.
De Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Les lettres de Montmoulin par Philippe Cobert jusqu'au 1er novembre à Lyon, à la Comédie Odéon et puis un peu plus tard à Paris, au Théâtre de l'Œuvre. Enfin, quand le sport joue la loi des séries, 13 victoires à Roland-Garros pour Rafael Nadal hier, la 13e. L'Espagnol se demande d'ailleurs s'il va pas arrêter là sa saison 2020. Et effectivement, il pourrait. Et puis 17 titres de champion NBA pour les Lakers de Los Angeles qui ont battu les Heat de Miami cette nuit. LeBron James décroche le titre de meilleur joueur pour la 4e fois. C'est du basket aux États-Unis. Soirée de folie à Los Angeles avec Loïc Piala.
C'est le nom de Kobe Bryant qui a résonné dans les rues de Los Angeles au moment de célébrer ce 17e titre des Lakers. Mais ça y est, LeBron James a gagné sa place dans le cœur des milliers de fans réunis dimanche soir à proximité du Staples Center, comme Danny.
Il a gagné notre respect. Il est venu pour nous aider à retrouver notre standing, à retourner en playoff et à remporter un titre.
En remportant son 4e titre avec une 3e franchise différente, King James assoit aussi un peu plus sa place dans l'histoire du basket tout court. À des milliers de kilomètres de la Californie, dans la bulle d'Orlando, il n'a pas oublié cette année 2020 si particulière entre pandémie et lutte sociale.
Les conversations sur les injustices, sur la brutalité policière, tout ce qu'on a pu mettre en avant en utilisant notre plateforme, avoir les joueurs unis sur ces sujets, ça va nous manquer, on ne l'oubliera pas.
Malgré LeBron, malgré les Lakers, l'audience des finales a été deux fois moindre que l'an dernier. Pour Donald Trump et le camp conservateur, c'est parce que la NBA s'est politisée en soutenant le mouvement Black Lives Matter, mais tous les événements sportifs ont vu leurs audiences baisser depuis cet été. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et nettement moins flamboyant ce match nul 0-0 entre la France et le Portugal hier soir en Ligue des Nations. C'est du football évidemment.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
Et le ciel, Stéphanie, s'inscrit dans un dégradé de nuages.
Et oui, du plus foncé au nord-ouest, au plus clair en allant vers le centre. En début de matinée, un front pluvieux aborde la Bretagne. Il va très doucement avancer en cours de journée vers l'intérieur pour atteindre ce soir la frontière belge, l'Île-de-France, le centre et le nord de l'Aquitaine. Plus à l'est, il faudra attendre la dissipation parfois lente des brunes et brouillards matinaux pour profiter de quelques trouées lumineuses, installant un ciel variable, alternant entre des éclaircies, des nuages, voire quelques ondées éparses sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et la Corse. En Méditerranée, la journée se déroule plutôt sous le soleil. Le revers de la médaille, c'est le vent très turbulent qui peut souffler par rafale jusqu'à 100 km par heure pour le Mistral et la Tramontane.
Et le mercure peine à atteindre les moyennes de saison.
En raison du vent orienté de secteur nord, il reste blotti 2 à 3 degrés sous les normales avec des valeurs oscillant au réveil entre 2 à 7 degrés sur une grande moitié nord. Il est un peu plus audacieux de l'Aquitaine à la Provence et en Corse, abordant les 8 à 12 degrés. En cours de journée, il grimpe légèrement pour atteindre 10 à 15 degrés en général, 15 à 18 en Aquitaine, 16 à 22 le long de la Grande Bleue. Il fera 10 degrés à Saint-Étienne, 12 à Clermont-Ferrand, 14 à Paris, 15 à Montauban et 19 à Marseille.
La météo signée Stéphane Fanny Fromentin.